nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Elle ouvre tremblante le tiroir de la commode et ses mains sentent au-dessus du linge un revolver. Il est face à elle et se penche et semble buter. Elle prend des deux mains et ferme les yeux et tire. Elle ouvre les yeux. Il est couché à terre, sur le dos. Des trous sur la poitrine, dont sort du sang. Lâche l'arme. Il se met la tête entre les mains. Il crie, ce n'est pas possible. Non, non. L'orage entre dans la pièce. Le bruit de l'orage a dû cacher le bruit du drame. Elle ferme la porte-fenêtre de sa chambre. Regarde le corps à terre. Réfléchit. Il est dans sa chambre. C'est impossible qu'elle le fasse sortir et le cacher. Elle décide. C'est elle qui doit quitter la chambre. Et alors, elle met une robe de chambre, ses pantoufles et sort de la chambre. faire ma clé. Il va finir la nuit dans la chambre de son mari. N'arrive pas à dormir. Elle voit le visage et le corps d'Antoine. Ne comprend pas. Il était pourtant mort. Elle l'a jeté dans le lac et l'a vu s'y enfoncer. Alors, qu'il ressuscite à chaque fois, que va-t-elle devenir? À moins qu'elle n'ait mal vu, que ce soit un autre. Un rôdeur. De toute façon, il faut se débarrasser de ce corps. Cette liaison a rendu sa vie un véritable cauchemar. Elle se jure de rester fidèle à Henri et Luc. Elle passe une très mauvaise vie. Elle se réveille avec un grand mal de tête. Il fait grand jour. Elle entend des pas dans le couloir. Vite, elle se lève. Enfile sa robe de chambre. Met ses pantoufles. Et sort de la chambre. C'est la bonne. Elle lui dit, mademoiselle, j'ai coussé ici cette nuit. L'orage m'a réveillée. Et la porte-fenêtre s'est ouverte. J'ai pris peur. Je suis venue ici. La bonne lui dit, je vous comprends, madame. Il y a même eu un arbre dont le tronc était coupé en deux dans le parc. La bonne te dirige vers la chambre. Elle lui dit, laissez, faites celle-là à la place, celle de mon mari à la place de la mienne. Merci. Et la bonne va à la chambre. J'en ai bien ennuyé. Toutes ses affaires sont dans sa chambre. Si elle veut s'habiller, elle est obligée d'y retourner. Elle regarde bien si la bonne est occupée. Vite, elle entre dans sa chambre. Voit que le lit est défait, la porte-fenêtre fermée. S'approche plus avant et voit qu'il y a presque au pied du lit le corps couché sur le dos, des trous sur la poitrine, du sang sur le parquet. Essaye de voir le visage, il est taché de boue, rouge de sang, grimaçant. Elle se dit que c'est bien Antoine. Voit qu'il a ses vêtements pleins de boue. Et soupire. Vite. Elle va prendre dans l'armoire ses choses pour s'habiller. Robe, sous-vêtements et tout. Et va dans le cabinet de toilette pour prendre un bain. Il y a un système ingénieux qui fait qu'une chaudière chauffe-l'eau. Une demi-heure plus tard, elle sort de la chambre habillée en robe beige, ferme la porte derrière elle à clé . La bonne demande « Est-ce que je peux faire la chambre ?» Elle lui dit « Non merci, pas la peine, je ferai moi-même. Vous avez suffisamment de travail, ma fille. » Bien, madame. Dites que je prends mon petit déjeuner au salon. Bien, madame. Et la bonne s'en retourne. Demi-heure plus tard, un domestique la sert pour son petit déjeuner. Il lui demande « Madame, entendu cette nuit ?»«
Oui, mon ami. »
Il lui dit « Orage très violent, un arbre abattu. » Des haies près de la façade endommagées et choses étranges dans la boue, on a vu des traces de chaussures d'hommes. Elle lui dit, ce sont peut-être des pas avant l'orage. Non, parce que ils sont bien enfoncés dans la terre. Après son petit déjeuner, elle se dit qu'elle doit agir. Mais comment? Il ne peut aller chez Luc si Claire y est. Que lui dire? Elle décide, c'est de lui envoyer un messager pour lui dire de venir la voir le plus vite possible.
Le pauvre, il va croire que j'ai fait des choses encore. Et que j'ai fait exprès.
Mais je ne peux pas faire autrement. Vite, elle écrit un petit mot pour lui dire de venir. Elle le donnera à un de ses domestiques.
Vous allez le donner qu'à Monsieur Luc Thermann, à personne d'autre. Si vous ne pouvez pas le voir, ne le faites pas. Vous revenez. Tâchez de le voir en cachette. Il demande, mais comment? Vous direz au domestique que vous voulez voir monsieur et rien d'autre. Vous donnerez des pièces. Tenez, et vous garderez le restant. Bien, madame.
Et le valet, qui est un jeune homme blond d'un 25 ans, grand, mince, part à cheval, au château où habitent Luc et sa femme. Lorsqu'il arrive,
Le jeune homme est bien embarrassé. S'il sonne au portail, tout le monde doit savoir. Et on va lui demander pourquoi. Comme il sait que sa maîtresse ne veut pas qu'on sache. Alors, il voit à travers les jours du portail un jardinier dans le parc. Il fait « Monsieur, monsieur !» Le jardinier se retourne et voit que se trouve près du portail un valet. Il y va. Le valet lui dit « Voulez-vous me rendre service ?»«
Ça dépend. »
Il lui dit « Rien de bien grave. Juste porter une lettre à Monsieur Luc Terman en cachette de tous. » Il lui montre la lettre avec une pièce.
Bon, je veux bien. Mais je n'ai pas le droit d'aller à l'intérieur du château. Je fais partie des domestiques extérieurs.
Domestique dit, ah, c'est bien forcheux. Jardinier réfléchit, lui dit,
remarquez, mon jeune maître aime bien se promener seul dans le parc. Là, je peux. Je prends votre lettre.
Le valet réfléchit, lui dit,
pas d'embrouille, c'est très important.
Jardinier lui dit,
je connais le monde et ses secrets. De père en fils, l'on nous appelle Martin.
Le valet lui tend la lettre et la pièce. Voilà, mais attention, s'il arrive quelque chose de désagréable à cause de ces lettres, de cette lettre, je serai
à qui je l'ai donné.
La personne très influente sera vous remercier de ce malheur. Allez. Et le valet s'en retourne.
Le jardinier se dit, sûrement une lettre d'amour. Il ne pense qu'à ça, les gens qui ne travaillent pas.
Et retourne à son travail.
Dans l'après-midi, il voit Luc sortir de la maison, se cache pour ne pas être vu en se mettant derrière un muret. Et lorsque Luc le dépasse,
monsieur,
Luc se retourne,
j'ai une lettre pour vous, très importante, et que vous devez être seul à connaître.
Luc, surpris, lui demande, qui vous l'a apporté?
Il lui dit, un valet très mystérieux. Il m'a dit de bien vous la donner à vous seul et en cachette.
Luc lui dit, merci, et il s'éloigne. Il va au fond du parc pour lire cette mystérieuse missive.
Il voit avec surprise et mauvaise humeur que c'est encore Jeanne qui lui demande de venir à son secours. Elle a encore des ennuis. Il est furieux. Qu'a-t-elle fait encore?
Il vient à peine de rentrer de voyage de noces et voilà. Elle le lance dans des histoires impossibles. Et puis, elle a un mari. Il n'a qu'à s'en occuper.
Ça l'ennuie et en même temps, il est curieux de savoir.
Mais se dit que si c'est encore quelque chose d'étrange, il la laisse se débrouiller seul.
Décidément, quelle famille! Son frère qui est un pauvre type qui joue et boit, et elle qui a des aventures impossibles.
Dans l'après-midi, il décide tout de même d'y aller. Ça tombe bien, sa femme est partie, elle aussi, voir une amie. Elle ne rentrera que le lendemain dans la matinée. C'est une vieille femme qui est devenue religieuse et comme elle est vieille, le couvent accepte qu'elle ait des visites. Donc, il prend son cheval et va vers voir Jean.
Arrivé à la propriété, il sonne au portail.
Un domestique accourt à lui. Lui qui dit :
J'ai à voir votre maîtresse.
Bien, monsieur, vous êtes
Luc Terman. Je vais voir monsieur.
Il s'éloigne pour aller à la maison prévenir sa maîtresse. Puis revient et ouvre le portail. Et fait rentrer Luc avec le cheval.
Le cheval est mené à l'écurie.
Luc, au salon, à l'étage, chez Bergeron.
Lorsqu'elle le voit, elle accourt à lui.
Elle lui dit : J'ai cru que tu n'allais pas venir.
Il lui demande : Que se passe-t-il ?
Elle est gênée et lui dit :
Viens t'asseoir. Elle le mène s'asseoir sur une chaise et prend celle qui est en face de lui. Elle lui dit :
Gênée. Il m'arrive encore quelque chose.
Il lui dit agacé.
Qu'est-ce que c'est? Un amant?
Non, toujours le même.
Eh bien, elle lui dit. C'est compliqué à t'expliquer toute l'histoire, mais j'y suis pour rien. Il était dans ma chambre cette nuit et je l'ai tué.
Il lui dit. Et alors?
Elle lui fait. Le cadavre est dans ma chambre. Qu'est-ce que j'y peux?
Il ne fallait pas le tuer dans ta chambre.
Elle lui dit, il est venu de lui-même et la fenêtre, par la fenêtre en plus, et la nuit, j'avais tué dans le lac pourtant.
Luc se dit, elle est complètement folle, elle délire.
Elle lui dit, je ne comprends rien à ton histoire. Et puis, tu as ton mari, demande-lui de l'aider, de t'aider.
Elle lui dit, déçue et énervée,
c'est impossible, le pauvre Henri. Il lui dit, il fallait y passer avant.
Elle lui demande,
tu veux pas m'aider?
Aider à se débarrasser d'un fantôme?
Non, d'un vrai cadavre.
Elle lui tend la bourse.
Il lui demande, qu'est-ce que c'est?
L'argent que je devais lui donner, et puis, puisqu'il n'y en a plus besoin, je te le rends.
Merci.
Il est complètement perdu.
Elle lui dit, viens.
Il se lève et la suit.
Monte à la chambre.
Ouvre la porte et le fait rentrer.
La pièce est dans une demi-obscurité. On ne voit pas très bien.
Il est là.
Elle lui montre le lit. Il y va. Et voit qu'au pied du lit, le corps se penche et vous. Et il y a du sang sur le visage et des trous sur les vêtements. Ils sont bien tachés, pistolet sur le plancher. Se redresse et lui demande: et maintenant, comment on va se débarrasser de ça? Elle lui dit: il faut sortir de la chambre et de la maison et l'enterrer dans le parc. Et comment tu peux faire ça, le sortir de la maison chambre sans être vu? Je sais pas. Il lui dit: t'es mis dans un beau pétrin. Pourquoi l'as-tu fait dans ta chambre? Il lui dit: mais je n'y peux rien. Il est venu de lui-même. Il lui dit: eh ben oui, tu t'es mis dans un beau guépier. Réfléchis, lui dit: on va me mettre dans une malle et sortir. Va chercher une malle. Il lui dit: je sais pas, il faut que je demande à un domestique. Il lui dit: eh ben, va demander. Elle sort de la chambre. Cherche un domestique, voit une femme de chambre, elle lui dit: est-ce que vous savez où se trouve une grande malle vide? La femme de chambre lui dit: la malle, madame? Une grande malle? Je vais vous en chercher une. Oui, merci.
Merci.
Est-ce que il faudra que l'on vous aide pour la remplir? Non, merci. Et on vous la met où? Dans le couloir de la chambre. J'ai des verrues à y mettre dedans. Bien, madame. Et la bonne s'en va. Et Jean retourne à la chambre. Jean retourne à la chambre où elle retrouve Luc. La bonne domestique va chercher une grande malle en bois, la dépose dans le couloir de la chambre. La bonne demande: vous voulez qu'on vous aide pour la remplir? Non merci, je le ferai moi-même. Vous pouvez disposer. Le domestique s'éloigne. Jean ouvre la porte de sa chambre et pousse la malle dans la chambre. Luc est là et l'aide. Il ouvre la malle et, aidé de Jean, il dépose dans la malle le corps et le pistolet. Nettoie le sang qui est à terre, ouvre la fenêtre. Elle lui dit: voilà. Elle lui demande: et qu'est-ce qu'on fait de la malle? Il réfléchit: nous la sortirons de la chambre cette nuit et la mettrons dans un fiacre. Et nous la enterrons dans un coin tranquille. Elle lui dit: il est l'heure de dîner. Sortons.
et ils vont à la salle à manger.
Puis, il passe sa soirée au salon. Lui qui dit, faudra faire atteler un fiacre. Il lui dit, le cocher va vouloir venir avec nous. Lui dira, pas la peine.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.